Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons à la fin de le chapitre 27 de saint Matthieu, qui termine la passion de notre Seigneur. Il nous restera après le dernier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 28, qui va couvrir la résurrection et les apparitions après la résurrection. Sur le polycopie, nous en sommes à la page 31. Donc, voilà les versets que nous méditons. Nous sommes en train de méditer les versets 51 à 56 du chapitre 27 de saint Matthieu. Donc, le voile du temple vient de se déchirer, les sépulcres se sont ouverts, la terre tremble, les pierres se fendent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent, sortant de leur tombeau après la résurrection. Et le centurion, saisi d'une grande frayeur, dit et témoigna, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et l'Évangile nous avertit qu'il y avait là, à quelque distance, des femmes nombreuses qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Sainte Marie-Madeleine, Marie Cléophas et Marie Salomé. La tradition nous dit que lorsque quelqu'un était crucifié par les Romains, il y avait un cordon de protection qui était placé autour de la croix pour empêcher la famille de chercher à protéger d'une certaine façon ou sauver la personne qui était condamnée. Et personne n'avait le droit de s'approcher de la croix. Et Saint Jean est arrivé, nous dit la tradition, Saint Jean est arrivé avec la Sainte Vierge Marie et Sainte Marie-Madeleine. Et lorsque Saint Jean s'est approché donc de ce cordon de soldats, qui gardait la croix, évidemment, les soldats ont manifesté qu'il n'était pas possible de s'approcher de la croix. Et la tradition nous dit que Saint Jean, a simplement dit aux soldats, c'est la mère du condamné, en désignant la Sainte Vierge. Alors, troublé par l'extraordinaire dignité et noblesse, et beauté de la très Sainte Vierge Marie, le soldat a levé son arme, levé sa lance et a permis exceptionnellement à Saint Jean, la très Sainte Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine de s'approcher de la croix et de se tenir juste au pied de la croix. Alors nous en sommes donc à la page 31 du polycopié. Voyons un petit peu ce que disent les pères sur tous ces passages. Saint Cyril, Théophylacte et Eutymius font remarquer que ceux qui auraient dû être les premiers à reconnaître le Christ, à savoir les prêtres du temple, l'ont renié et tué. Non seulement ça, mais il y a d'autres qui auraient dû être là. Les apôtres. Les apôtres ne sont pas là. Saint Pierre n'est pas là. Saint Jean est là, mais peut-être simplement parce que la très Sainte Vierge Marie, littéralement, l'a pris par la main en l'obligeant à venir. Parce que sans doute que par lui-même, Saint Jean aurait fait ce que les autres apôtres ont fait également, se serait sauvé, épouvanté par les conséquences de la passion. Quant aux prêtres du temple, donc les prêtres de l'Ancien Testament, ils seront privés de leur sacerdoce. Cela signifie aussi que le temple serait un jour profané, renié, mis sur le côté, avec tous ses rites et sacrifices, car la grâce du Saint-Esprit quittait le temple et que le Saint des Saints, qui était auparavant inaccessible, devint ouvert à la vue de tous. Donc cet abandon, non seulement des prêtres de l'Ancien Testament, mais aussi cet abandon des premiers amis de notre Seigneur, les apôtres, doit nous faire réfléchir, nous fait comprendre que la même chose peut arriver aujourd'hui. On voit très bien aujourd'hui l'abandon complet de postes. Tous les prêtres n'ont plus l'église des Juifs, l'église de l'Ancien Testament, mais tous les prêtres de l'église de Vatican II ont abandonné littéralement notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sauvent parce qu'ils refusent de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et si notre Seigneur Jésus-Christ était recrucifié aujourd'hui, ben peut-être bien que nous aussi nous aurions fait comme Saint Pierre et les autres apôtres ont fait, nous serions sauvés en courant. Vous savez, sans la grâce du bon Dieu, pas une seule chose, cette bêtise que les autres ont fait, en fait, que je ne sois pas capable de faire moi-même, il faut bien se dire ça. Rappelez-vous la terrible prophétie de notre Sainte Vierge Marie à la Salette en 1846, je crois. Elle a dit, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et au début du message, il est dit que mes prêtres, les disciples de mon divin Fils, sont devenus des cloaques d'impureté. Et elle disait ça au milieu du 19e siècle. Qu'est-ce que la très sainte Vierge Marie dirait aujourd'hui? Donc, mes bien chers frères, il faut nous maintenir dans l'humilité. Sans l'aide de la très sainte Vierge Marie, eh bien, ferions exactement les mêmes bêtises que les apôtres il y a 2000 ans. Alors, mettons-nous dans l'humilité et mettons-nous dans la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons autour de nous ces milliers d'abandons de la part des évêques, de la part des prêtres, même s'ils ne sont plus prêtres ni évêques. D'ailleurs, dans l'église de Vatican II, ils ne sont plus rien du tout. Mais il y a un abandon de poste. C'est là où il faut bien comprendre une chose capitale. Donc, il existe deux églises aujourd'hui en présence, l'église catholique et l'église de Vatican II, qui n'ont plus rien en commun, mais rien du tout. Il n'y a plus la même doctrine, plus la même foi, plus les mêmes sacrements. Tout a été changé dans l'église de Vatican II. Et donc, on ne peut pas se sauver avec l'église de Vatican II, parce que personne ne peut se sauver en dehors de l'église catholique. Donc, sans être catholique, il est absolument impossible de sauver son âme. Donc ce rideau qui se dirige, qui se divise, qui se déchire, le rideau du temple de l'Ancien Testament qui se déchire, montre bien l'arrivée de cette nouvelle église en quelque sorte, cette église catholique qui va remplacer l'église juive qui est devenue maintenant mortifère, parce que justement celui que cette église des juifs avait annoncé pendant des milliers d'années, celui-là est arrivé, puis au lieu de l'accepter, bien, ils l'ont crucifié. Saint Ephrem rajoute une petite note en disant que le rideau du temple, lorsqu'il se déchira, une colombe, symbole du Saint-Esprit, s'envola hors du temple. Donc, allégoriquement, le voile des cérémonies légales s'est maintenant ouvert, car le Christ a accompli ce qu'elle représentait. Les Juifs et les Gentils peuvent maintenant clairement reconnaître Dieu, le Christ et ses mystères, que les Juifs avaient figurellement occultés, cachés pendant de longues années. Le service, le temple et l'église de Dieu devront quitter Jérusalem pour les Gentils et Rome. Donc, ça va être le départ très vite de Saint-Pierre, premier pape, et de toute l'église, si vous voulez, vers Antioche d'abord et ensuite vers Rome, où Saint-Pierre, premier pape, va mourir martyr. Beaucoup plus tard, à Rome. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, il faut méditer sur ces choses-là, même si ça fait grincer encore quelques dents. C'est que de même que l'église des Juifs a été repoussée pour permettre, justement, pour être remplacée en quelque sorte par l'église catholique, mais de même tous ceux qui sont membres de l'église catholique, s'ils ne sont pas fidèles, eux aussi vont être repoussés au loin et finalement être remplacé par un autre peuple qui va venir prendre la place des catholiques infidèles. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc se maintenir dans l'humilité, parce que sinon notre Seigneur Jésus-Christ pourrait très bien aller chercher quelqu'un d'autre pour nous remplacer. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, étant Dieu, je dirais strictement parlant, il n'a pas besoin de nous. Dieu est maître de sa création, Dieu est maître de son Église, et il n'a pas besoin de nous pour nous convertir. Il n'a pas besoin de nous pour changer s'il doit changer, s'il doit être changé dans l'Église actuelle, parce qu'il faut bien avouer que même dans l'Église catholique, il y a beaucoup de lâcheté, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de cécité intellectuelle, de cécité spirituelle, beaucoup aussi de paresse, d'assédie. On le voit très bien, c'est une grande souffrance pour moi, prêtre, de constater que dans bien des cas, dans les milieux de la tradition, Dieu sait si j'ai vu ça dans la fraternité Saint-Pélice quand j'en ai été membre, des catholiques qui se disent catholiques, qui se disent traditionnalistes, mais qui dans la pratique vivent comme des païens. Ils se prétendent traditionnalistes, mais ils s'habillent comme des païens, ils se comportent comme des païens, ils assistent au même spectacle mondain et suranné et moderne, si vous voulez, que les païens. Et notre Seigneur Jésus-Christ pourrait très bien, justement, aller chercher d'autres personnes, et ceci est valable pas simplement pour eux, mais pour chacun d'entre nous aussi, sans la grâce du bon Dieu, nous sommes capables tout à fait d'abandonner notre Seigneur. Ici, voyons ce texte de Saint Léon, un changement net s'est fait de la loi à l'évangile, de la synagogue à l'église, des nombreux sacrifices à l'unique victime, Dieu lui-même. Et lorsque le Seigneur eut rendu l'esprit, le voile du temple fut soudainement déchiré de haut en bas. Le voile se déchire, ça c'est Saint Jérôme, et tous les mystères de la loi, auparavant secrets, sont ouverts à tous et donnés aux gentils. Et ce voile qui qui se déchire, pardon, symbolise aussi justement le début de la mission des apôtres. La plupart des juifs étaient convaincus, même parmi les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient convaincus que l'Église du Christ était une Église uniquement réservée, je dirais, aux juifs. Et ils auront beaucoup de mal à comprendre, au moins au début, que notre Seigneur Jésus-Christ veut que tous les hommes rentrent dans cette Église. Parce que hors de cette Église, il n'y a pas de salut. Et donc, notre Seigneur va envoyer Saint Paul, Saint Pierre aussi, et les autres apôtres dans le monde entier pour convertir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Et de volonté antécédente, il veut le salut de tous les hommes, même si de volonté conséquente, seuls ceux qui sont unis à lui par la vertu de charité pourront utiliser les mérites de la passion de notre Seigneur. Saint Pierre, au début, avait beaucoup de mal à comprendre que notre Seigneur voulait aussi le baptême des non-juifs. On le verra plus tard dans certains textes, par exemple, des Actes des Apôtres, où Dieu va demander à Saint Pierre de baptiser le centurion Corneille, qui était un païen. Eh bien, pour nous, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu la même tentation de considérer qu'on est un petit groupe de privilégiés, ce qui est vrai d'ailleurs, et que bien, il n'y a plus que nous. Non, nous devons avoir l'esprit missionnaire et nous aussi partir à la conquête du monde. Nous sommes à peu près dans la même situation dans laquelle les premiers membres de l'Église catholique étaient au début de l'histoire de l'Église. N'oublions pas que dans la ville de Rome, par exemple, l'immense majorité des habitants de la ville de Rome étaient esclaves. Il y avait une corruption morale épouvantable, bon, qui n'était peut-être pas aussi épouvantable que la corruption morale d'aujourd'hui, on est bien pire aujourd'hui que la corruption morale qui existait au début de l'histoire de l'Église. Mais il y avait toutes cette tendance générale, on voit très bien à Rome, la destruction de la famille, la destruction la destruction des enfants par l'avortement, par l'infanticide, par tous les péchés contre nature qui existaient déjà à cette époque. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous aussi, nous avons à lutter contre nos mauvaises tendances pour convertir les gens autour de nous. C'est ce qu'a dit de demander notre Seigneur aux apôtres, allez baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que j'ai ces convictions intimes de cette nécessité pour moi de me convertir? Saint Paul annonce que le chemin du ciel est maintenant ouvert, car le Saint des Saints en était le symbole, et le voile du temple signifiait qu'il était fermé jusqu'à ce que le Christ loue violemment par sa mort. En fait, c'est surtout par la résurrection, 3 jours plus tard, la résurrection de notre Seigneur, et puis après, par l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques, que notre Seigneur va réouvrir définitivement les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché d'Adam et Ève. Donc, ce voile qui se déchire représente aussi les nouveaux cieux, la nouvelle terre, car l'ancienne terre va disparaître. On a quelques belles phrases ici au milieu de la page 31, belles phrases des pères. Les cœurs terriens et rocailleux des hommes doivent être conduits à la pénitence par la mort du Christ, puisque la terre, la mer, les cieux l'ont obscurci. Et les rochers proclament tous leur indignation à la mort de leur Créateur. Nous voyons donc le Christ dans sa nature la plus basse manifester sa suprême majesté et puissance, au point qu'il semblerait qu'on ne puisse l'obliger à la mort. Les hommes découvrant qui il était et toute sa puissance, lui qui avait souffert de telles viles indignités avec une telle dignité, seront tous surpris et frappés de stupéfaction. Ô cœur des Juifs, plus dur que le roc, car les rochers furent brisés, mais leur cœur endurci. Et il suffit de changer quelques mots et cette phrase s'adapte à nous. Ô cœur des catholiques, plus dur que le roc, car les rochers furent brisés, mais nos cœurs furent endurcis. Encore une fois, maintenons-nous dans l'humilité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, donc va permettre la résurrection du monde entier. La résurrection de notre Seigneur, on verra plus tard, mais c'est aussi le symbole de notre propre conversion. Ici, un beau texte de saint Ambroise qui nous montre justement ce cheminement. Jésus fut fatigué par son voyage afin qu'il puisse rafraîchir ceux qui sont exténués. Il demanda à boire alors qu'il allait donner une boisson spirituelle aux assoiffés. Il eut faim alors qu'il allait donner la nourriture de vie aux affamés. Il meurt alors qu'il va ressusciter. Il est enseveli, lui qui va sortir du tombeau. Il est pendu à l'arbre tremblant pour renforcer ceux qui tremblent. Il couvre le ciel d'obscurité, lui qui va les illuminer. Il fait trembler la terre qu'il va raffermir et mettre en colère les flots, lui qui va les calmer. Il ouvre les tombes des morts pour montrer qu'elles doivent devenir les demeures des vivants. Il est fait d'une vierge pour que l'on reconnaisse, qu'on puisse se reconnaître comme fils de Dieu. Il est adoré comme juif pour pouvoir être adoré en vérité comme le fils de Dieu. Et donc, méditons sur ces magnifiques textes de l'Évangile et des Pères. Alors Saint Jérôme va expliquer allégoriquement le fait que les rochers vont se fendre. Et il redit la même, il reprend la même idée. Ces rochers qui se fendent représentent les cœurs dits durs, les cœurs des gentils. Donc, puisque les cœurs des juifs ne veulent pas se convertir et se fendre, alors Dieu va les fendre le cœur des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Cela représente aussi les prédictions universelles des prophètes, qu'on appelle roc comme les apôtres, à cause du roc qui est le Christ, que tout ce qui était caché en elle par la dure couverture de la loi est maintenant ouvert et révélé aux gentils. Les tombeaux, les sépulcres blanchis, s'ouvrirent également afin que ceux qui étaient morts dans l'incrédulité reviennent pour vivre avec le Christ qui est ressuscité, entrer dans la Jérusalem céleste, car ils ne seront plus citoyens de la terre mais du ciel. Ils mourront donc avec ceux de la terre pour régner avec la dent céleste. N'oublions pas cela, mes bien chers frères, nous prêchons notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous prêchons notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et donc il faut présenter la croix de notre Seigneur, c'est ce qu'ont fait tous les missionnaires. Les apôtres et tous les missionnaires qui vont les suivre, qui partent à la conquête du monde, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de protection naturelle. Ils ont une protection surnaturelle, la croix de notre Seigneur. Et même si beaucoup vont devoir donner leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, cette protection surnaturelle va ouvrir les cœurs, va convertir le monde. Donc, ces tombeaux qui s'ouvrent, je rappelle le texte. La terre trembla, les pierres se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Ce sont les versets 51 et 52, chapitre 27. Donc ces tombeaux qui s'ouvrent marquent la résurrection future. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sont également le symbole de notre propre mort et de notre propre résurrection. La mort spirituelle. Cette mort symbolise justement la destruction du péché en nous. Et la résurrection symbolise le début d'une vie nouvelle. Le Christ illumina donc les ténèbres de la mort pour éclairer l'obscurité du puits. Et voilà la mort de ses dépouilles pour apporter la résurrection des morts à ceux qui sont maintenant endormis. Ils ressuscitèrent comme preuve de la résurrection du Christ et du pouvoir de sa passion. De même que les âmes des patriarches sont délivrées du puits, ainsi mystiquement, les âmes des hommes morts dans le péché peuvent maintenant revivre par sa grâce pour enfin ressusciter glorieusement pour la vie bienheureuse et éternelle. Et donc la mort du Christ représente les âmes des hommes morts dans le péché et la résurrection du Christ représente le fait que ces âmes mortes dans le péché peuvent maintenant revivre par sa grâce pour ressusciter glorieusement pour la vie bienheureuse et éternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts manifeste notre propre résurrection. Nous aussi nous devons ressusciter, c'est-à-dire changer de vie. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. J'ai remarqué, encore une fois, ça m'a beaucoup frappé quand j'étais dans la fraternité Saint-Bélis, ce nombre de, surtout de ces jeunes, ils n'étaient pas tous comme ça, mais leur immense majorité, énorme majorité était comme ça. Ils considéraient que la vie spirituelle d'un catholique était quelque chose, en quelque sorte, presque d'indépendant de la vie de tous les jours. Donc, pour eux, un catholique, ils considéraient qu'ils remplissaient leur devoir d'État en tant que catholique traditionnel en allant à la messe traditionnelle du dimanche. Point final, point barre. Bon, éventuellement, se confesser quand même, ça fait bien. On se confessait une fois par mois, ou voire même une fois par semaine. On priait un peu le chapelet. Mais on assistait à la messe traditionnelle le dimanche, bien pieusement. Mais dans la semaine, on vivait comme les autres. Et quand on essayait de faire des remarques à ces gens, j'étais obligé de leur dire, mais attendez, vous vivez dans un monde de païens, mais vous vivez comme les païens, vous êtes habillés comme eux, vous avez les mêmes fréquentations qu'eux, vous avez les mêmes distractions qu'eux, ça va pas du tout. Ils nous répondaient, la bouche en cœur, mais monsieur l'abbé, il faut un temps pour tout. Il faut un temps pour la prière, puis un temps pour le monde. Je me rappelle ces discussions invraisemblables avec des parents dans la tradition qui partaient en vacances pour le mois de juillet, le mois d'août, qui partaient en vacances tranquillement sur les plages de la Côte d'Azur. Puis quand je leur faisais remarquer, mais attendez, vous ne pouvez pas en tant que catholique aller dans des lieux pareils, ce sont des lieux de corruption, avec les nudités et tout ça, comment voulez-vous que vos enfants et vous-même vous restiez en état de grâce dans des lieux pareils? C'est pas la place d'un catholique. Eh bien, il nous répondait toujours, mais monsieur l'abbé, les catholiques ont besoin de vacances comme tout le monde. Et je n'empêcherai pas mes enfants, ils veulent aller à la mer, nous irons à la mer. Évidemment, les catastrophes morales arrivaient. Après, les pauvres parents, avec leurs beaux yeux pour pleurer, ils ne comprenaient rien du tout, ils ne comprenaient pas. Je comprends pas, tous mes enfants ont perdu la foi. Évidemment que tous vos enfants ont perdu la foi, parce que vous les avez tués, vous les avez assassinés, et vous êtes les assassins des âmes de vos enfants. Autre explication en haut de la page 32 sur le polycopier. Saint Jérôme qui parle, c'est le type des croyants donc, qui avaient oublié leur péché dans les tombeaux de la mort et dont les cœurs durs ont été ramollis pour reconnaître leur Créateur et qui ont ressuscité par la pénitence à une vie de grâce. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ symbolise justement ce cœur dur du pécheur qui se transforme de cœur de pierre qu'il était, devient cœur de chair. Ce qui se passe dans la confession? Dans la confession, le bon Dieu va buriner littéralement le cœur de pierre qui était notre tombeau et va le transformer en cœur de chair. Donc ici, une petite note, je ne sais plus où je l'ai trouvée, de l'historien Baronius, qui pense que le centurion dont parle l'évangile, le centurion, c'est verset 54. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et selon Baronius, donc ce centurion était saint Longin, à qui Pilate avait confié le Christ et qui fut converti par les miracles dont il avait été le témoin, qui devient un prédicateur de la résurrection. Les premiers seront les derniers, car Longin confesse la divinité du Christ, Carius Vanillé. Les gentils confessent, mais les juifs nient dans leur aveuglement. Et leur dernière erreur devient pire que la première, Saint Jérôme qui parle. L'ordre des choses est inversé. Pendant que les juifs tuent, les disciples s'enfuient, un gentil confesse. Voilà des païens qui n'ont jamais rien reçu comme formation spirituelle, qui reconnaissent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se convertissent. On voit très bien aujourd'hui que le bon Dieu va de plus en plus chercher des gens comme ça pour prendre la place de ces catholiques qui sont devenus tellement frileux, qui sont plus dignes de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Une belle phrase aussi des Pères en haut de la page 32 sur le polycopier. La foi a une très bonne vue. Elle reconnaît le Fils de Dieu dans l'enfant allaité par la Vierge et dans celui qui est pendu à la croix. Le voleur le reconnaît sur la croix comme les mages l'avaient fait dans les tables. Le voleur le proclame roi, mais le centurion fils de Dieu et homme en même temps. Donc, on voit très bien qu'il était certainement plus facile de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître le Fils de Dieu, quand le Christ, au cours de sa vie missionnaire sur la terre, faisait des grands miracles. Quand notre Seigneur Jésus-Christ change l'eau en vin ou ressuscite un mort ou guérit un malade devant tous les fidèles qui sont là et devant les apôtres, il est évident qu'il est facile à ce moment de reconnaître le Fils de Dieu. Mais il faut comprendre que cette même personne est sur la croix crucifiée dans les affres de la mort, l'agonie de la croix, mais que c'est le même Dieu qui est là. Et qu'en fait, le miracle que va faire notre Seigneur Jésus-Christ de sa propre résurrection est encore bien plus grand que les autres miracles qu'il avait fait avant. Le plus grand des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa propre résurrection. Donc, soyons comme le centurion, et nous aussi, nous devons proclamer Dieu comme fils de Dieu et fils de l'homme. Homme et Dieu, en même temps, nous devons nous aussi répéter la formule du centurion, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Dernière note des Pères, page 32, le cœur de la Vierge devint le plus brillant miroir de la passion du Christ. Le Fils fut crucifié dans son corps et la Mère dans son âme. Ô peine redoutable, dit Saint Bernard, ô Vierge percée dans votre âme, vous êtes devenue plus qu'une martyre, car en vous les sentiments de compassion étaient bien plus grands que ceux des souffrances corporelles. Saint Notre-Dame, qui n'a pourtant pas été touchée physiquement par le fer des bourreaux, est nommée par l'Église Reine des Martyrs. Reine des Martyrs. Et c'est parce qu'elle est Reine des Martyrs en tant que Mère de Dieu qu'elle veut devenir Mère de l'Église. N'oublions pas que peut-être le plus beau titre de gloire de notre Sainte Vierge Marie, parce qu'elle justement est mère de Dieu, c'est d'être mère de l'Église, puisqu'elle est mère du corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, elle va devenir mère du corps physique, du corps mystique de son Fils, et le corps mystique du Christ, c'est quoi? C'est l'Église catholique, dont notre Sainte Vierge Marie est mère de l'Église catholique, mère de tous les prêtres. Avançons dans ce texte sacré, versets 57 à 61 du chapitre 27 de Saint Matthieu. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu'on rendît le corps. Ayant pris le corps, Joseph l'enveloppa d'un linceul blanc. Il le déposa dans son sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Or, Marie, Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Alors, qui était ce Joseph d'Arimathie? Vraisemblablement, c'était un membre du Sanhédrin et qui était un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, mais un disciple en cachette. Eh bien, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ va lui donner le pouvoir, la force, cette fois-ci, de sortir de l'obscurité dans laquelle il se tenait pour passer en plein soleil et affirmer sa foi. Ce Joseph est appelé par un autre évangéliste, c'est l'évangéliste Saint-Marc, comme il est appelé conseiller. Plusieurs pensent que c'est à lui que s'applique ce premier psaume, « Heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des impies ». Et ce conseil des impies, c'est quoi? C'est le conseil du Sanhédrin. Alors nous pouvons aussi entendre dans un sens spirituel la sépulture du corps du Seigneur qui est enseveli non dans l'or, ni dans les pierres précieuses, ni dans la soie, mais dans du linge blanc. Figure de celui qui reçoit Jésus dans un cœur pur et qui l'enveloppe ainsi dans un linceul blanc. Vous savez que ce linceul, le linceul de Turin, eh bien, est un tissu de lin. C'est pour cela que lorsque nous célébrons la Sainte Messe aujourd'hui, nous utilisons toujours des nappes faites de lin blanc, est cru et qu'il doit y avoir trois nappes sur l'autel justement pour rappeler la triple chute de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement les nappes de qui recouvrent l'autel doivent être faites de lin, mais en plus de ça, les linges utilisés pendant la Sainte Messe, comme le corporal, le purificatoire, la palle aussi, doivent être faites également de lin. Ça devient de plus en plus difficile. Et là encore, mais de moins en moins. Quand j'ai voulu changer les nappes d'hôtel, la petite chapelle de Padiès, là, j'avais pas de nappe au début, j'ai essayé de trouver du linge, j'ai bien du mal. Et je suis allé dans un grand magasin à Albi, j'ai fini par trouver des pièces de lin, et ils m'ont dit à ce moment-là qu'il n'y avait plus qu'un seul tisseur de lin dans toute la France. Plus qu'un seul. C'est pratiquement plus utilisé, sauf pour l'ameublement, la décoration dans les maisons. Eh bien, ce linceul de lin qui enveloppe notre Seigneur Jésus-Christ, par sa blancheur immaculée, représente le cœur du fidèle qui reçoit notre Seigneur. Donc le corps du Christ a été déposé dans une pièce de lin de la même façon que le corps du Christ va être déposé par la Sainte Communion sur nos lèvres. Nos lèvres représentent donc ce linceul de lin qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que notre bouche qui reçoit notre Seigneur par la Sainte Communion soit aussi pure, aussi immaculée que cette pièce de lin. Les grandes grâces que j'ai reçues dans ma vie, c'est de pouvoir aller vénérer le linceul de Turin. C'était en 75 avec le séminaire, on a pu tous y aller. Avec Monseigneur Lefebvre, vénérer cette pièce extraordinaire. Donc étudier toutes les données historiques de cette pièce de lin, qui est justement la plus belle relique de la Passion que nous possédions. Elle est très impressionnante, même si on ne voit pas grand-chose. Moi, j'avoue, j'ai été un petit peu surpris quand je me suis retrouvé dans le linceul. On voit que des ombres marrons, pourtant c'est le linceul qui a reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est absolument certain maintenant historiquement. N'oubliez pas que la plupart des soi-disant scientifiques modernes qui prétendent que le linceul de Turin est un linceul fabriqué au Moyen-Âge racontent n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Ils prétendent qu'avec le carbone 14, ils peuvent dater le linceul de Turin au Moyen-Âge. Mais tous les scientifiques sérieux savent très bien qu'on peut pratiquement plus rien dater que le carbone 14, parce que pour que la datation carbone 14 soit vraiment efficace, il faut que la quantité de carbone dans l'atmosphère soit la même pendant toute la durée de vie de la pièce qu'on étudie. Or, la quantité de carbone dans l'atmosphère a été extraordinairement augmentée aujourd'hui, surtout par la pollution des moteurs de voiture. Et donc, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le carbone 14 pour faire des évaluations de ce genre, sauf peut-être pour les pièces relativement récentes du XVIIe au XVIIIe siècle, mais pour des pièces beaucoup plus anciennes, ils font du n'importe quoi aujourd'hui. Alors, vérifions justement, pour nous psychologiquement parlant, spirituellement parlant, vérifions que le linge que nous tenons dans notre cœur soit suffisamment pur pour recevoir notre Seigneur. Avant de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, vérifions que ce linge est propre. Tout à fait au début de l'histoire de l'Église, il semble que, dans certains cas au moins, il y a eu la communion dans la main, mais pas du tout telle qu'on le voit faire aujourd'hui dans l'Église de Vatican II. En fait, les fidèles, d'après certains historiens, avaient un voile de lin, justement une pièce de lin sur les mains, et recevaient l'hostie consacrée sur cette pièce de lin, justement pour ne pas toucher avec leurs doigts non consacrés le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans l'Église catholique, c'est le prêtre lui-même qui distribue la communion directement sur la langue. Mais avant d'aller communier, toujours faire un examen de conscience. Est-ce que le linceul qui va recevoir notre Seigneur, est-ce qu'il est propre? Est-ce que je suis, non pas digne de communier, parce que si vous attendez d'être digne pour communier, vous pouvez attendre pendant longtemps, on n'est jamais digne de communier, personne n'est digne de communier. Mais le bon Dieu ne demande pas, l'Église ne demande pas comme condition pour pouvoir recevoir la Sainte Eucharistie d'en être digne. Qu'est-ce que demande la Sainte Église? Rappelez-vous les ordonnances de l'Église catholique sur le sujet. Bon, évidemment, l'état de grâce, condition sine qua non, la plus importante, d'être en état de grâce, d'avoir conservé les lois du jeûne eucharistique, donc 3 heures avant la communion. Pour nos prêtres, c'est 3 heures avant le début de la messe. Pour vos fidèles, c'est 3 heures avant la communion sans manger, ni sans consommer d'alcool. Pour les liquides autres que l'eau, c'est 1 heure avant la communion. Et pour l'eau, on peut boire de l'eau sans restriction, si c'est nécessaire, puisque l'eau, d'après les lois de Pie XII que nous suivons, l'eau ne rompt pas le jeûne. Encore une fois, attention, dans ce domaine-là aussi, je trouve parfois j'entends parfois des imprudences de gens qui nous disent « Monsieur l'abbé, vous êtes un libéral, il ne faut pas suivre ces lois, il faut suivre l'ancienne loi d'avant Pie XII qui imposait le jeûne eucharistique depuis minuit sans manger ni boire. » Monsieur, si vous voulez, monsieur, madame, si vous voulez suivre cette règle, suivez-la, mais vous n'y êtes pas tenu, puisque le pape Pie XII est passé, que le pape Pie XII est infaillible aussi dans ces domaines-là, et que le pape Pie XII a décrété justement que, pour certaines raisons, il fallait changer les lois du jeûne eucharistique, entre autres parce qu'il a autorisé les messes du soir. Et dans tout ce qui regarde la foi et les mœurs, eh bien là, on touche, ça touche quand même indirectement au moins à la foi. Donc on ne peut pas dire que les changements introduits par le pape Pie XII sont immoraux, parce que justement il a modifié des lois très anciennes. À l'époque, avant Pie XII, il n'y avait pas de messe ce soir. Bon, je n'aime pas moi-même célébrer la messe ce soir, je préfère la célébrer le matin, mais pour beaucoup de gens, on ne peut pas célébrer la messe le matin en semaine pour que les gens puissent y assister. Actuellement, j'enregistre cette conférence à l'île de la Réunion. Je suis passé pour une petite mission pour aider un petit peu les gens de la Réunion qui sont très, très, très éloignés. Et je suis près de Saint-Denis, la capitale de l'île de la Réunion, à Sainte-Marie exactement. Eh bien, il y a des gens qui veulent assister à la messe tous les jours pendant que je suis là, évidemment, parce qu'ils refusent d'assister à la messe de Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice, donc ils n'ont rien, ils ont la messe une fois par an quand je viens, c'est tout. Et ils veulent pouvoir assister à la messe tous les jours quand je suis là. Mais il y a des embouteillages tels le matin à Saint-Denis, la Réunion, qu'il est pratiquement impossible pour eux de venir à une messe le matin avant leur travail. Donc je dis la messe ce soir à 18h30, comme ça ils peuvent venir à la messe et assister pieusement avant de repartir chez eux pour avoir le repas du soir. Et donc il faut faire attention, encore une fois, à ne pas vouloir être plus royaliste que le roi. Le pape Pie XII n'est pas un pape potiche, c'est un véritable pape qui a agi comme tel, certainement un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, certainement une des grandes intelligences de l'Église. Le pape Pie XII était capable de parler un peu absolument sur tous les sujets et réfléchissait à deux fois avant de dire que le pape Pie XII était là. A fait un pont qui a permis aux modernistes de passer pour détruire l'église de l'intérieur. Papillon savait très bien ce qu'il faisait. Donc attention à ça. Donc ce linge blanc est la figure de celui qui reçoit Jésus dans un cœur pur. La blancheur du linge, du linceul, représente le caractère immaculé que doit présenter l'âme qui reçoit notre Seigneur. Le mot linceul, sendon, est un tissu de lin, que le lin vient de la terre, disent les pères. Et on ne peut lui donner une blancheur éclatante que par beaucoup d'opérations successives. Et c'est une figure mystérieuse de ce corps qui vient de la terre, c'est-à-dire du sein d'une vierge, et qui n'est parvenu que par les travaux de sa passion à la gloire éclatante de l'immortalité. De même qu'il faut battre le lin, les fibres de lin, pendant une certaine période de temps, justement, pour qu'elles prennent cette blancheur, qui n'est d'ailleurs que toute relative, puisque le lin pur n'est pas vraiment blanc, il est écru. C'est un blanc légèrement grisé. Eh bien, cela, encore une fois, représente notre cœur qui doit être battu par la pénitence, battu par la contrition de nos péchés, qui doit être illuminé par le sacrement de pénitence, la confession, avant de recevoir le corps immaculé de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est de là, disent les pères, qu'est venu l'usage dans l'Église d'offrir le sacrifice de l'autel, non sur la soie, ni sur une étoffe de couleur, mais sur un tissu de lin qui vient de la terre, comme l'a ordonné le bienheureux pape Sylvestre. Donc, c'est coutume d'utiliser le lin pour les nappes d'autel, utiliser les trois nappes, utiliser le lin aussi pour les corporaux et les purificatoires. Ce sont des coutumes très anciennes. Une autre image qui est très belle, c'est que le sépulcre neuf, dans lequel va être déposé le corps de notre Seigneur, ayant pris le corps, Joseph d'Arimathie l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. En fait, c'est un sépulcre qui s'était fait tailler pour lui. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc ce sépulcre neuf, disent les pères, peut aussi figurer le sein virginal de notre Sainte Vierge Marie. Le corps du Sauveur a été enseveli dans un tombeau creusé dans le roc, justement, et ce tombeau représente aussi le cœur immaculé de Marie. Cœur immaculé de Marie, le sein de notre Sainte Vierge Marie qui va recevoir pendant 9 mois l'enfant Jésus qui va grandir en son sein depuis le jour de l'Annonciation. L'ange Gabriel qui vient annoncer à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle va devenir la mère de Dieu jusqu'au jour de Noël, le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on retrouve la même idée. Si la Très Sainte Vierge Marie n'a pu recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ que dans un sein parfaitement virginal, eh bien il faut que nous aussi, quand nous recevons la Sainte Communion, nous ayons aussi le même saint virginal, c'est-à-dire la même pureté, le même caractère immaculé de notre âme. Bon, c'est évidemment pas possible pour nous d'avoir la même pureté que notre Sainte Vierge Marie, puisque notre Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception. Mais il faut quand même s'en inspirer. Alors, ce tombeau taillé dans le roc, les pères de l'Église font remarquer que c'est un détail important, parce que si ce tombeau était composé de plusieurs pierres, c'est en bas de la page 32, si vous pouvez copier, si le tombeau était composé de plusieurs pierres, on n'est pas manqué d'objecter qu'on en avait creusé les fondations pour dérober secrètement le corps. Si ce tombeau avait été préparé dans la terre, ils auraient pu dire ils ont creusé sous terre et l'ont enlevé. S'il n'avait été formé que par une petite pierre, ils n'auraient pas manqué de dire ils sont venus le dérober pendant que nous dormions. Et enroulé une grande pierre à l'entrée du tombeau, il s'en alla. Non, le tombeau utilisé par le Christ était taillé à vif dans le roc, avec une énorme pierres, plusieurs centaines de kilos, peut-être même plusieurs tonnes, on ne sait pas, eh bien, qui ferment l'entrée de ce tombeau. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ sort victorieusement de son tombeau, c'est réellement un miracle. Donc, ce Joseph d'Arimathie est aussi une figure des apôtres qui ensevelit le corps dans un linceul blanc. C'est dans un linge semblable que saint Pierre fit descendre du ciel vers lui toutes sortes d'animaux, ce qui signifie que l'Église était ensevelie avec Jésus-Christ. Et c'est donc là que vient, de là que vient justement cette obligation que notre Seigneur Jésus-Christ va donner aux apôtres, aller prêcher, baptiser dans le monde entier. Et les apôtres vont à ce moment-là comprendre, à partir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement pour le salut des Juifs, mais pour le salut de tous les hommes. Nous sommes à la page 33 maintenant. Oh, la page 33 sur le polycopier. Le corps du Seigneur est donc placé dans ce lieu de repos, creusé tout nouvellement dans la pierre, parce que Jésus-Christ est déposé par la prédication des apôtres dans le cœur si dur des infidèles, que le travail de la doctrine a creusé, mais qui était jusqu'à là inaccessible à tout sentiment de crainte de Dieu. Donc il faut que le tombeau soit creusé, et il faut aussi qu'on puisse le protéger par une pierre, la pierre tombale. Vous voyez, cela représente également tout le travail de la grâce qui va prendre une pièce de roc. Le cœur du païen, c'est le cœur du païen est représenté par cette pierre. Donc ce bloc de pierre brute qui est notre cœur doit être creusé soigneusement, purifié, nettoyé et protégé, une fois que notre Seigneur Jésus-Christ est rentré, protégé par une grosse pierre, qu'on ne puisse pas bouger. C'est le symbole aussi du tabernacle. Le tabernacle représente, le tabernacle qui contient sur l'autel le ciboire avec les hosties consacrées, représente aussi ce tombeau dans lequel le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été placé. Donc c'est voilà les textes des pères. À la page 33, le corps du Seigneur est placé dans ce lieu de repos, creusé tout nouvellement dans la pierre, parce que Jésus-Christ est déposé par la prédication des apôtres dans le cœur si dur des infidèles, que le travail de la doctrine a creusé, mais qui était jusque-là inaccessible à tout sentiment de crainte de Dieu. Autre phrase en haut de la page 33, qui est très belle aussi, qui nous fait bien comprendre justement cette comparaison entre le tombeau qui reçoit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, notre propre cœur qui devient le tombeau de notre Seigneur par la Sainte Communion. Voilà ce que disent les pères. Une pierre ferme l'entrée de ce tombeau pour nous apprendre que nul que le Seigneur ne doit entrer dans nos cœurs. Et que puisque lui-même avait fait pénétrer en nous la connaissance de Dieu, puisque avant lui personne n'avait fait pénétrer en nous la connaissance de Dieu, personne ne puisse y être ensuite introduit que par lui. Ce n'est point par hasard qu'il est écrit que Joseph enveloppe le corps dans un linceul blanc, qu'il le dépose dans un sépulcre neuf et qu'il roule une grande pierre à l'entrée, car tout ce qui approche le corps du Seigneur doit avoir le caractère de pureté, de nouveauté, la grandeur. La nouveauté, la grandeur. Donc vous voyez, ceci doit nous aider à comprendre l'importance d'être en état de grâce pour communier. Le pire des péchés qu'on puisse commettre, c'est de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme maculée par le péché. Imaginez le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est placé dans un sépulcre qui est tout sale. Mais non, le sépulcre est neuf, le sépulcre qui est tout propre pour préparer le corps de notre Seigneur Jésus, pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous sommes baptisés, le baptême qui marque notre âme du caractère du baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu, eh bien ce corps qui est le nôtre, le cœur qui est le nôtre, est un cœur consacré à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le pire des péchés qu'on puisse commettre, c'est de faire entrer dans ce cœur qui a été consacré à notre Seigneur Jésus-Christ des impuretés, des immondices. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous commettons une faute grave. Chaque fois que nous commettons une faute grave, eh bien on verse dans notre cœur consacré à Dieu par le baptême, on verse une barrique d'immondices, de saleté. Autre note ici des pères, saint Anselme dit qu'il lui fut révélé par la Vierge Marie que Joseph d'Arimathie avait dit à Pilate que la mère du condamné, notre Sainte Vierge Marie, mourait de douleur pour son fils unique. Et qu'il n'était pas raisonnable que la mère innocente mourût comme son fils et que ce serait pour elle une consolation que de pouvoir l'enterrer. Et Pilate consentit à cette faveur. Joseph lui dit également qu'on ne pouvait jeter avec les criminels dans la vallée de la Géhenne, proche du Golgotha, le corps de Jésus, dont la sainteté et l'innocence étaient connues de Pilate, et que Jésus méritait un honorable enterrement qu'il était prêt à assurer lui-même. Parce qu'avant, c'était la coutume chez les Juifs de ce temps, tant notre Seigneur, la plupart des gens qui étaient condamnés à mort étaient des esclaves enfuis, qui étaient condamnés à mort. Et donc, c'était un peu une honte terrible pour la famille d'avoir un membre de la famille qui était condamné à mort, crucifié comme le dernier des esclaves. Et donc, la plupart du temps, c'était les soldats eux-mêmes qui, une fois la mort attestée, du condamné, détacher le condamné. Et comme la famille venait même pas récupérer le corps à cause de la honte que cette condamnation avait attirée sur la famille, donc les soldats les jetaient le corps dans une vallée qui était juste à côté, une espèce de tranchée à côté, et qui s'appelait la vallée de la Géhenne, qui était proche du Golgotha, et ils jetaient les corps des condamnés dans cette vallée de la Géhenne. Alors mystiquement, celui qui reçoit Jésus dans un cœur pur, dans un pur esprit, l'enveloppe dans un drap propre. Nous devons être parfumés nous-mêmes avec les aromates des actes vertueux de la contemplation quand nous recevons le corps de Jésus dans notre poitrine comme dans un tombeau neuf. Vous voyez, on retrouve la même idée. Donc les pères insistent beaucoup là-dessus que ce sépulcre neuf que Joseph d'Arimathie avait fait tailler dans le roc représente le cœur, l'âme, en état de grâce d'un catholique qui reçoit le même cœur de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. Et c'est toute la grandeur du baptême. Quel crime épouvantable de faire croire que le baptême ne sert à rien et que tous les hommes sont des enfants de Dieu parce que tout simplement la grâce fait partie de notre nature et qu'elle ne peut donc quitter l'homme. C'est l'enseignement de Benoît, c'est l'enseignement de François, c'est l'enseignement de Jean-Paul II et de tous ces faux papes qui racontent n'importe quoi. Je rappelle que François de Rome, Bergoglio, a dit plusieurs fois que les musulmans étaient des enfants de Dieu, donc le baptême ne sert à rien, évidemment. Comme personne ne fut conçu dans le sein de la Vierge avant ou après le Christ, puisqu'elle est Vierge avant, pendant et après notre Seigneur, personne ne fut enterré avant ou après lui dans le tombeau. Autre symbole, donc là c'est le sens anagogique, je rappelle que le sens anagogique représente ce qui se passera à la fin des temps. Le tombeau rappelle que nous ne sommes que des étrangers sur la terre, que le paradis est notre vraie patrie. Le tombeau était donc dans un jardin, car Adam pécha dans le jardin. Le Christ commença sa passion et termina dans un jardin de Gethsémani, et il est enterré dans un jardin à côté du Golgotha. Il veut donc un jardin beau et bien fleuri, par les bourgeons, les fruits de toutes les vertus, car ce jardin est son Église. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ va rattraper le péché des premiers hommes qui ont été commis dans un jardin du paradis terrestre, de même que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa passion au jardin de Gethsémani, que notre Seigneur Jésus-Christ va être enterré pendant les 3 jours entre le vendredi saint et le dimanche de la résurrection dans un jardin à côté du Golgotha. De la même façon, notre âme est un jardin et il veut venir y demeurer de la même façon. Mais il faut que ces jardins soient fleuris, soient proprement nettoyés. N'oublions pas que nous sommes le jardinier de ce jardin et que, encore une fois, on n'a pas le droit de maintenir ce jardin dans la saleté. Il faut, comme un bon jardinier, tous les matins passer entre les allées du jardin pour vérifier que les mauvaises herbes n'ont pas poussé pendant la nuit. Si nous constatons qu'il y a des mauvaises herbes qui ont poussé pendant la nuit, il nous faut les arracher. Il faut noter que le corps du Christ, comme sur la croix, avait sa face et sa tête tournées vers l'ouest. L'âme du Christ partit voir les patriarches, descendus aux enfers, et tous les autres saints, mais revint avec eux pour prendre possession de son corps pour ressusciter glorieusement le jour de Pâques. Donc les patriarches reprirent alors leur corps pour ressusciter avec lui. Donc voyons les derniers versets de ce chapitre numéro 27 que je voudrais terminer aujourd'hui. Versets 62 à 66 du chapitre 27 de Saint Matthieu. Le lendemain, qui était le jour après la préparation de la Pâque, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate, en disant « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, lorsqu'il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober son corps et nous disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts, dernière imposture qui sera encore pire que la première. » Et Pilate leur dit, vous avez des gardes, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc, et pour s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre et mirent des gardes. Donc, on voit, vous voyez, par ce texte, l'hypocrisie des Juifs. C'est terrible, ce refus d'ouvrir les yeux, cette cécité intellectuelle, cette cécité morale, cette cécité spirituelle. Même après la mort sur la croix, ils ont bien vu que notre Seigneur Jésus-Christ était mort. Ils ont vu que le soldat longin est venu percer le cœur de sa lance. Donc, il est mort. Mais non, ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Et ils ont peur que les apôtres viennent prendre le corps pour prétendre qu'il avait été ressuscité d'entre les morts. Donc, on voit l'hypocrisie dans le comportement de ces Juifs. Alors voyons les petites notes des pères sur ce sujet en bas de la page 33. C'est le 6e jour que l'homme a été créé. C'est le 7e que Dieu s'est reposé. Ainsi Jésus est mort le 6e jour et s'est reposé le 7e dans le tombeau. Jésus-Christ est un séducteur qui ne faisait point passer de la vérité à l'erreur, mais du mensonge à la vérité, du vice à la vertu, de la mort à la vie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va manifester maintenant par sa résurrection, que nous allons méditer la prochaine fois, justement, sa divinité. La plus belle preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa propre résurrection. Donc il est ressuscité 3 jours après sa mort pour montrer le consentement que toute la Trinité avait donné à la passion du Fils de Dieu. Ces 3 jours sont une figure de la Sainte Trinité. Il va rester, non pas 3 jours, mais il va ressusciter le 3e jour, vendredi, samedi, dimanche. Et ces 3 jours sont une figure de la Sainte Trinité qui avait créé l'homme au commencement et qui le prépare à la fin par la passion de Jésus-Christ. Voyons les dernières notes de ce chapitre 27, en haut de la page 34 sur le polycopier. Donc, les disciples de Jésus-Christ, disent les pères, étaient des voleurs dans un sens spirituel, parce qu'ils faisaient servir à l'usage de l'Église des écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'ils avaient enlevés aux Juifs coupables d'ingratitude et qu'ils leur ont enlevé le Sauveur pendant qu'il dormait du sommeil de l'infidélité pour le transmettre aux gentils qui devaient croire en lui. Notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, je suis venu à vous, j'ai été annoncé par tous les prophètes pendant des milliers d'années, j'ai fait chez vous des miracles extraordinaires que je n'ai fait nulle part ailleurs, et malgré cela, vous dormez au lieu de venir me servir. Et parce que vous dormez du sommeil de l'infidélité, alors je vais être donné à d'autres qui vont prendre un soin réel de moi. Donc ce sommeil des soldats devant la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que les soldats vont dormir, on va voir ça plus tard, au lieu de garder le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ce sommeil représente le sommeil de l'infidélité. Est-ce que c'est pas aussi le mien? Est-ce que moi aussi, de temps en temps, je ne m'endors pas au lieu de rester éveillé pour garder le corps de notre Seigneur en moi? Et si je m'endors, c'est-à-dire que si je ne veille pas sur ce corps qui m'a été confié, ce corps de notre Seigneur Jésus-Christ que je reçois par la Sainte Communion, si je dors au lieu de veiller sur ce corps, eh bien, le démon va venir m'enlever le corps et je vais le perdre parce que par le péché, je vais devoir perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a une phrase très dure des pères. Quand le texte sacré dit que cette dernière erreur serait pire que pour la première. Ordonnez donc, disent les Juifs à Pilate, ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober son corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts, dernière imposture qui serait pire que la première. Eh bien, les pères disent, en ajoutant à cette dernière erreur serait pire que la première, ils disent vrai à leur insu, car le mépris de la grâce de la pénitence fut pour les Juifs une chose pire que l'erreur causée par leur ignorance. pénitence. Le mépris, la grâce de la pénitence est pire. Mépriser la pénitence à laquelle le bon Dieu nous appelle. Pilate ne voulait pas que le sceau fût mis sur le sépulcre par les soldats seulement, car les Juifs auraient pu dire alors que les soldats avaient laissé des disciples enlever le corps du Seigneur et détruire ainsi la foi en sa résurrection. Mais ils n'oseraient maintenant l'avancer puisqu'ils sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes scellé le sépulcre. Le sépulcre a été scellé par les princes des prêtres juifs, pas par Pilate. Les Juifs accuseraient les apôtres et les disciples de prétendre que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent donc le tombeau avec les soldats en scellant la pierre du tombeau. Donc ces sceaux représentent aussi le sceau qu'on doit mettre sur notre propre corps pour être sûr que le démon ne puisse pas ouvrir la pierre, la rouler et pénétrer dans l'âme, dans notre âme, pour y voler l'état de grâce. Après avoir reçu le Christ dans le nouveau tombeau de notre poitrine, prenons garde qu'il y reste par sa grâce et qu'il ne nous abandonne jamais. Belle phrase des pères. Mettons-y nos gardes vigilants, nos vertus, pour qu'elles repoussent le sommeil et la paresse. Saignons-nous d'une âme plus forte que l'acier, fortifions nos cœurs avec la ferme résolution de notre péché. Donc attention à cette nécessité dans laquelle nous sommes de conserver intègre la virginité de notre âme. Le bon Dieu nous demande donc de garder cette âme parfaitement pure. Il nous faut la protéger. Il nous faut, surtout avec la grâce du bon Dieu donnée par le sacrement de pénitence, la Sainte Eucharistie, protéger notre âme pour qu'elle ne devienne pas, d'une maison de prière qu'elle est supposée être, qu'elle ne devienne pas une caverne de voleurs. Donc relisez soigneusement cette très belle phrase des pères qui nous demande de placer nos gardes vigilants, nos vertus, pour repousser dans notre âme le sommeil et la paresse, la sédie spirituelle. Voilà, nous avons, Dieu aidant, terminé donc ce chapitre 27 de Saint Matthieu. Il nous reste maintenant le chapitre 28, qui sera le dernier chapitre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Le chapitre 28 qui va expliquer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et les apparitions après la résurrection. Nous allons terminer par une prière et la prochaine fois nous continuerons et terminerons l'évangile de Saint Matthieu. Je pense que j'ai besoin encore de deux ou trois cours, comme il me reste de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. J'ai besoin à peu près d'encore deux cours pour terminer l'évangile selon Saint Matthieu. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.